Les experts, Axel de Tarlé pour l'économie, Géraldine Vosner pour le vrai faux et Sophie Larmoyer pour l'international. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Thomas.
On vous en parle depuis hier matin, le Gabon est en proie à des violences suite à la réélection contestée d'Ali Bongo. Et tout cela, Axel de Tarlé, tout ça n'est pas neutre pour nos entreprises françaises très présentes au Gabon, ainsi d'ailleurs que dans toute l'Afrique francophone.
Bah oui, la France est le premier partenaire commercial du Gabon. Alors c'est un pays qui vit de ses matières premières. C'est simple, il y en a trois. Il y a du pétrole, du bois et du manganèse. Et à chaque fois, vous trouvez des Français à la manœuvre. Donc le pétrole, c'est Total, qui est présent au Gabon depuis 60 ans. Le manganèse, c'est le Français Eramet, qui exploite les mines. Et puis dans le bois également, vous avez des Français comme Transbois. Donc en tout, on compte plus d'une centaine de grandes entreprises françaises dans ce petit pays de moins de 2 millions d'habitants. Mmh. Bah, c'est simple, il y a Bouygues, Vinci, Veolia, AXA, BNP, Bolloré, bien sûr. Les Français donc sont très présents, mais ils reculent. En 10 ans, notre part de marché au Gabon a chuté de 40 à 22%.
Ah, divisé par deux.
Et oui, et ce au profit des Chinois qui sont très offensifs sur le plan commercial en Afrique, peu regardants sur les questions éthiques et des droits de l'homme. Donc c'est vrai sur tout le continent africain, parti de rien, ils s'arrogent aujourd'hui 20% de la part de marché de ce continent. Ils sont passés devant nous, devant les Français, ce qui est quand même rageant parce qu'on nous explique que l'Afrique va être le continent qui va tirer la croissance du monde au 21e siècle.
C'est pas le moment de perdre nos positions là-bas.
Voilà. Alors justement, c'est peut-être dans ces positions de crise comme ce que vit le Gabon en ce moment qu'on aurait l'occasion de renforcer nos liens et de ne pas plier bagages, parce que les Français tiennent beaucoup à se comporter en partenaire en Afrique et non pas en investisseur étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Eramet, par exemple, ouvre des écoles au Gabon. Ça veut dire que Total emploie des locaux. Le directeur général de Total Gabon, c'est un Gabonais. Et puis Total veut que les expatriés qu'il envoie au Gabon vivent au Gabon avec famille, femmes et enfants, et que ce ne soient pas des hommes seuls en mission courte à l'hôtel. Voilà, pour réussir, il faut se faire caméléon, devenir gabonais, devenir africain. C'est la seule façon de garder durablement...
Et ils font pas ça, les Chinois.
Non, les Chinois ne savent pas faire ça. Ils restent entre eux, ils font des villages de Chinois.
Ils investissent pour
eux. Voilà, sans famille, etc. Et par ailleurs, les Chinois sont plus instables. Quand leur économie se ralentit, les investissements chutent et ça les inquiète en ce moment. Ça a chuté de 40%.
Elle est tout terrain, notre experte internationale. Elle nous parle de la Chine et là, elle va enchaîner tout de suite avec le Venezuela. Sophie Larmoyer, plusieurs journalistes étrangers ont été expulsés ou refoulés du Venezuela cette semaine, dont la correspondante du Monde d'ailleurs. C'est un signe de la crispation du pouvoir en place. L'héritier d'Hugo Chavez, alors que le pays traverse une crise totale, on va dire.
Voilà, le pouvoir voulait éviter qu'il y ait trop de témoins de cette grande marche qui a eu lieu hier. Pour une fois, l'opposition a réussi à mobiliser très large. On parle d'un million de personnes dans l'est de la capitale. Et c'est rare à Caracas une telle foule, parce que d'abord, les gens ont peur des violences policières, de l'insécurité record de Caracas. Et puis surtout, ils sont épuisés. Ils n'ont pas le temps de manifester. Ils font la queue toute la nuit, toute la journée, parfois 48 heures pour avoir un paquet de riz. Exactement. Les Vénézuéliens, ils ont faim, ce que vous disiez, c'était un slogan hier. La pénurie d'aliments de base et de médicaments atteint 80% des produits. Tout manque, c'est une véritable crise humanitaire.
Alors, ce qui est très très troublant, c'est que malgré cette situation que vous nous décrivez, Sophie, le président Nicolas Maduro, celui qui a donc succédé à Chavez, refuse toute aide extérieure. Il ne veut pas en entendre parler.
Non, ce serait un aveu d'échec. En même temps, comment imaginer que ça puisse aller mieux? 96% de l'économie du pays repose sur la vente de pétrole. Le reste, notamment la nourriture, tout est importé. Or, on le dit tous les jours, la chute des prix du pétrole, ils ont beaucoup moins d'argent pour acheter à manger. L'inflation a grimpé dans des proportions incroyables. C'était 180% en 2015. Le FMI prévoit 720% d'inflation pour cette année.
Ça veut dire 700. Des prix multipliés par 8.
Incroyable.
Donc alors l'État en faillite, quoi.
Complètement en faillite. Ils ont des ardoises partout. Le marché noir fonctionne à plein. Mais pour ceux qui en ont les moyens, un litre de lait, par exemple, à 120 euros, tout le monde ne peut pas se l'acheter.
Bon, ça veut dire que dans cette situation, malgré la fatigue et la lassitude, les Vénézuéliens réagissent quand même.
De deux manières. D'abord, en étant créatif, il y a une nouvelle gastronomie qui émerge. On trouve des recettes originales sur Internet, comment remplacer votre petit café du matin par une infusion de farine grillée. Gros succès d'un groupe Facebook où on s'échange des recettes sympas à base d'ingrédients alternatifs. On fait avec les moyens du bord, on se débrouille. Et puis, exaspérés, ils réagissent cette fois en descendant dans la rue. Il s'agit de faire pression sur le pouvoir pour que soit organisé un référendum pour révoquer le président Maduro, mais le faire légalement. Depuis janvier dernier, l'opposition anti-chaviste détient 2/3 des sièges à l'Assemblée, mais la présidence manœuvre pour retarder les procédures et éviter qu'il y ait des élections anticipées.
Voilà. Il y avait donc sans doute sans doute 1 million de personnes hein, cette nuit dans les rues de Caracas au Venezuela.
Nouvelle manifestation prévue la semaine prochaine.
C'est donc un cycle, ce n'est qu'un début comme on dit. Le vrai faux de l'info tout de suite. Avec vous Géraldine Vosner, le débat sur le burkini libère décidément des passions. Et hier c'est Luc Chatel à son tour qui s'est enflammé pour vanter les valeurs de la France.
La France, c'est le pays de la liberté de la femme, c'est le pays de la libération de la femme, c'est le pays où on respecte les femmes, qui sont les égales des hommes, et c'est le pays du mouvement féministe. C'est le pays qui a inventé la mini-jupe.
Ah, la France aurait inventé la mini-jupe, affirme Luc Chatel. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ?
C'est faux, Thomas. Le vêtement libérateur est né en Grande-Bretagne. Voilà, oui. Des ciseaux de la styliste Marie Kant, qui en avait plein le dos de manquer son autobus à ne pas pouvoir courir avec sa jupe au genou. Nous sommes en 62, le succès sa mini-jupe est foudroyant, il dépasse les frontières et un Français, André Courrèges, la popularise. Mais à l'époque, Thomas, eh ben, ça passe pas sans douleur. Coco Chanel trouve le vêtement indécent et il reste interdit jusqu'en 1980 dans un lieu que Luc Chatel connaît bien, l'Assemblée nationale.
C'est un lieu un peu machiste, hein, non, l'Assemblée nationale. L'Assemblée d'ailleurs qui n'est pas exactement un modèle en matière de parité.
Pas vraiment. Et c'est en cela que l'envolée de Luc Chatel est cocasse. Seulement 26% de femmes élues à l'Assemblée, c'est simple. On est 63e au classement des nations, derrière le Soudan, l'Afghanistan, on pourrait faire mieux.
Et Monsieur derrière Chatel, le Soudan et l'Afghanistan.
Absolument, juste derrière. Et Monsieur Chatel en sait d'ailleurs quelque chose. Son parti, les Républicains, paye chaque année 4 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir présenté à cette femme aux législatives. C'est pas plus brillant dans la société civile. Hein. 0% de femmes l'an dernier à la tête des sociétés du CAC 40, des écarts de salaire de 19%. Et plus le job est bien payé, bah plus ça se creuse. C'est dire si la France n'est pas ce phare de l'humanité que décrit Luc Chatel.
Attention, il dit qu'il l'a été.
Bah, il exagère. Hein. L'auteur de la Déclaration des droits de la femme, Olympe de Gouges, a été guillotiné, je vous le rappelle. Et tous les partis de gauche issus de la Révolution ont dénié le droit de vote aux femmes parce qu'ils les pensaient bigotes, réactionnaires. Elles seront donc parmi les dernières à voter en 45, après les Américaines, les Russes, les Allemandes et aujourd'hui, Thomas. Je vous rappelle aussi que c'est en France encore qu'on a dû créer une journée de la jupe et du respect il y a 10 ans pour défendre ce droit décidément fragile de dévoiler ses jambes.
On n'a peut-être pas inventé la mini-jupe, mais on a inventé le bikini. Et par les temps qui courent, ça fait du bien. Vous le vérifierez. Faites-moi un vrai faux là-dessus.
On
verra ça lundi. Merci beaucoup les experts.